L'idée de consacrer une soirée librairie à l'ouvrage de Jean Allouche, Transmettre, à Jacques Lacan et son élève Hérisson, paru en septembre 2020, est née à la fin du printemps de l'année passée. Elle avait rencontré chez lui un enthousiasme mitigé en raison du livre qui venait de paraître, La leçon d'Artaud, à la présentation duquel il était occupé. Un livre dont il disait à qui voulait l'entendre que ce serait le dernier, et dans les questions duquel il continuait d'être plongé, voire de poursuivre. Raison de plus aujourd'hui de parler de transmettre, en son absence et en son silence. Un silence qui donne précisément son titre à la conclusion du livre. Faire silence, un certain faire. Plusieurs personnes ont donc été sollicitées, dont le lien singulier à Jean Allouche et à ses livres motive leur prise de parole cet après-midi. Loin d'appartenir toutes à l'association de psychanalyse encore, elles viennent parfois d'autres lieux institutionnels, non sans rapport avec les éditions Eppel, où Jean Allouche a publié la plupart de ses livres. Simone Wehner intervient la première. Avant de rejoindre encore, elle fut un temps membre de l'école lacanienne de psychanalyse et plusieurs de ses bons mots sont cités dans les ouvrages de Jean Allouche. Raju Sundaramurti va dire ensuite lui-même ce qui fait son lien à l'œuvre et à la personne de Jean Allouche. Patricia Janodi a publié une trilogie remarquée chez Eppel en même temps qu'elle est la directrice de publication des Nouveaux Cahiers pour la Folie, soutenue et diffusée par Eppel depuis 2015. Guy Casadamant, membre de l'ELP, fondateur de la revue SPI et dont l'épopée nausière a été publiée chez Eppel, est venu ici même l'année dernière parler de son livre à l'invitation d'Encore. Anouk Kapp est, si je ne me trompe, pour quelque chose dans l'intérêt porté par Jean Allouche dans la scène lacanienne et son cercle magique, au livre de Ricciotto Canudo, Les Libérés, à la réédition duquel elle a contribué en 2014. Il était prévu qu'Ogban Ataï participe à la présentation discussion de la leçon d'Artaud qui devait avoir lieu à Ville-Évrard en septembre. Laurie Loffer est avec Sandra Bouringer l'éditrice de plusieurs livres dans la collection des grands classiques de l'érotologie moderne que Jean Allouche avait créé chez Eppel en 2000. Elle l'avait sollicité pour contribuer au volume des lettres à Lacan, paru en 2018. Enfin, Vincent Clavurier fait partie des membres d'Encore, pour lesquels les ouvrages de Jean Allouche continuent d'inspirer le cheminement. Laissons-les intervenir tour à tour avant de laisser la parole à l'auditoire, si vous le souhaitez.
Ben, bonjour, merci d'avoir choisi ce livre. Important, je trouve, dans le frayage de Jean Allouche, et intéressant pour réfléchir aux questions qu'il soulève et pertinent par rapport à l'association Encore qui n'est pas structurée autour d'un maître incarné qui préfère laisser un vide à la place du maître. Je vais essayer de dire quelques mots sur ma lecture de ce livre et j'évoquerai ainsi les aspects du travail de Jean Allouche qui m'ont inspiré et marqué. Dans cet ouvrage, il commence par interroger ce qui définit la qualité de maître et d'élève en relevant différentes possibilités. Lacan avait ses élèves et il a fondé son école en prenant modèle sur les écoles philosophiques de l'Antiquité. Ce sont des lieux d'enseignement, des lieux de vie et aussi des lieux thérapeutiques. Jean Allouche questionne. Lacan, lorsqu'il invite à y mettre du sien, s'adresse-t-il uniquement à ses élèves ou est-ce à un public plus large? Et cette invitation consiste-t-elle uniquement, consiste-t-elle ou pas, à privilégier ce qu'il en est d'un cheminement plutôt qu'une position de disciple zélé? En d'autres termes, est-ce que le lecteur de Lacan est forcément mis en position d'élève? Dans cette brouillardise, écrit-il, un bon mot qui fait résonner brouillon et brouillard, qu'il ne cherche pas à dissiper, Jean Allouche va proposer à ses lecteurs d'avancer avec plusieurs questions. D'abord, en quoi le style de Lacan a-t-il pu le situer dans une position de maître? Et de quelle sorte de savoir s'agit-il? Ensuite, quelle sorte de lien érotique Lacan a-t-il pu souhaiter établir entre lui et l'élève hérisson, selon sa propre indication? Alors ce bon mot de brouillardise ouvre sur l'idée d'un savoir qui n'est pas absolu, ni exhaustif. Il s'agit d'autre chose et c'est ce qui le rend précieux. C'est aussi présent, me semble-t-il, dans le jeu de mots du titre de cet ouvrage qui met l'accent sur trans et laisse échapper le maître avec un E en l'écrivant maître avec AI. Jean Allouche nous propose de belles formulations pour définir le style de Lacan. Je les ai trouvées tellement fortes et bien formulées que je vous les cite. Alors, la parole de Lacan s'apparie au silence. Elle charrie un noyau d'opacité et d'ambiguïté irréductible à toute tentative d'analyse discursive. Le verbe obéit au souffle d'un rythme qui lui confère une puissance d'évocation souveraine. Même lorsqu'on ne saisit pas complètement sa pensée, on appréhende tout de même quelque chose, un riche réseau d'implications occultes qui éveille des résonances multiples. Voilà, fin de citation. C'est beau, non? Enfin, ça. On marche à fond. Et un peu plus loin, il nous révèle que c'était un trick. Il nous a fait une blague, car il ne s'agit pas du tout d'un commentateur de Lacan, mais d'un certain Jean Lévy qui écrit cela à propos de Confucius dans son article « Confucius ou l'impossible filiation ». Cette proximité de style tend d'ailleurs à démontrer que Lacan était un maître au sens où Confucius l'était. Ce qui m'a intéressé dans cette référence, outre qu'elle est pertinente, que c'est très troublant, c'est le côté espiègle dont il fait preuve, en les rapprochant. À travers cette façon de faire, je relève un élément de son style à lui, son lien particulier au public. Il s'adresse à lui, le sollicite, joue avec et le fait marcher. Le public est inclus dans son dire. Quand il intitule son article « Vous êtes au courant, il y a un transfert psychotique », cette dimension de la prise en compte du public est présente et apporte une sorte de déprise ou un mode de savoir plus libre que celui d'un enseignement magistral. Sa parole a quelque chose qui lui échappe, quelque chose d'envoyé, d'ouvert, de non bouclé. Il a rappelé que notre écoute d'analyste se rapporte à une parole subjective et non à une mise en catégorie, y compris structurelle. Dans Perturbation d'Empernepsie, en 1988, il en montre les impasses. Cette position prolonge celle de l'article de 1986, « Vous êtes au courant, il y a un transfert psychotique », où il invite les analystes à un transfert au psychotique, à écouter le sujet, c'est-à-dire à écouter le sujet psychotique, en acceptant de se départir de la position de sachant et d'une sorte d'essentialisme dont peut relever la catégorie psychiatrique. Alors je reviens à transmettre, où il va cheminer avec la question « Qu'est-ce qu'un élève ?» La rencontre avec le livre de Marguerite Duras, « La pluie d'été », lui permet de poursuivre son exploration de ce qui se transmet ou de comment se transmet le savoir. Dans ce livre, il est question de l'enfant Ernesto, issu d'une famille nombreuse, plusieurs brothers and sisters, dont il est l'aîné. Ernesto ne sait pas lire, ne sait pas son âge, il sait seulement son nom. Il va à l'école pour la première fois et ne veut pas y retourner. Position subversive qui interroge de manière comique, presque absurde, la valeur du savoir scolaire. Les parents décident d'aller parler à l'instituteur et au directeur. L'élève Ernesto va refuser de retourner à l'école en arguant du fait qu'il ne veut pas apprendre des choses qu'il ne sait pas. Cette phrase qui se répète comme un refus de s'y prêter, comment peut-on la saisir? Est-elle à entendre comme une modalité qui s'oppose à une phrase de Lacan, celle de devoir y mettre du sien, sur laquelle Jean Alouche reprend? Est-ce une position qui pousse à l'extrême la logique scolaire sur le mode d'un refus? Elle peut faire penser à l'autisme comme incarnant le refus de ce savoir que l'autre veut nous transmettre. Elle m'a aussi évoqué l'effronterie de la phrase de Bartleby qui pose de manière ostentatoire et définitive son « I would prefer not to » et qui lui aussi se refuse à la demande de l'autre. Marguerite Duras situe cette histoire d'analphabétisme contemporain dans un contexte socialement déterminé, celui de chômeurs immigrés qui ne se préoccupent pas de scolariser leurs enfants et connaissent mal leurs propres origines. Et son écriture se prête au registre de l'infantile et de l'inculture. Ernesto accède seul à la lecture du livre brûlé. La Bible et l'Ancien Testament sont présents dans ce récit à travers le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, qui raconte à sa manière la révélation de la vanité du monde. Bien qu'il ne sache pas lire, Ernesto lit ce livre brûlé. Il lit l'histoire d'un roi ayant régné dans un pays étranger à une certaine époque. Ernesto finalement sait lire, et ce savoir lire le place au même niveau que les prophètes bibliques. Ces derniers, brusquement et malgré eux, sont appelés à proférer une parole qui leur est transmise par l'esprit. Il y a une sorte d'ironie qui fait penser que cet enfant n'a pas besoin du savoir de l'école pour accéder à une autre modalité, celle d'un savoir mystique par lequel il saisit quelque chose qui transcende ce savoir. Quel est le statut de ce savoir infantile? On peut faire l'hypothèse que ce savoir insu appelle justement le pourquoi du monde et rejoint la question d'un au-delà du maître pouvant transmettre un savoir déjà révélé. Jean Alouche va au-delà pour interroger cette position d'Ernesto. Il en fait la base d'une méditation sur la position d'élève et son effet sur son autre, le maître en l'occurrence. Le professeur et le directeur sont démis de leur position de maître scolaire. Il met en perspective comment ils sont déplacés par rapport à la position d'Ernesto de manière dialectique. Accédant, à la suite de cette lecture et en accéléré à tous les savoirs qui le mènent jusqu'aux universités, Ernesto ne pourra que rencontrer ce trou du monde qui est l'impossible savoir de sa causalité. La modalité du savoir qui est donnée ici est originale, car elle n'est pas issue d'un maître, mais d'une écriture qui a le statut d'une lettre. Alors je reviens à transmettre. Aux pages 57, Jean Alouche va nous proposer son allégorie, sa fable de l'élève hérisson. Dans son discours de Rome, Lacan dit qu'il adore les hérissons. Et dès qu'il en voit, il les met dans sa poche, dans son mouchoir. Il les ramène dans sa maison de campagne et aime les regarder froncer les paupières du front et se mettre en boule. Le hérisson se rebiffe, pisse, se met en boule et pique. Mais déjà chez Freud se trouve une allusion au dilemme du hérisson dont parle Schopenhauer pour décrire le besoin humain à la fois de se rapprocher des autres et en même temps de s'en écarter. Avec cette fable du hérisson, Jean Alouche propose un modèle du maître à l'élève qu'il distingue avec les trois temps logiques de Lacan. Finalement, le hérisson... Thank you. Cette fable du hérisson, Jean Alouche propose un modèle du maître à l'élève qu'il distingue avec les trois temps logiques de Lacan. Finalement, le hérisson est posé dans la maison de campagne où il est chéri. Et là, il nous propose un autre bon mot. Chérir le hérisson donne chérisson. Voilà une façon pleine d'esprit de raconter comment le maître s'y est pris avec lui. Et ces bons mots, issus de la pratique de Lacan, que Jean a consignés et dont il disait que c'était ce qu'il avait de plus lacanien, finalement, c'est lui, Jean, qui les a entendus. Et on peut dire qu'il s'agit tout autant de son écoute à lui, en écho aux mots d'esprit freudien. Ce qu'il avance ainsi, c'est qu'il aurait pu être un élève hérisson, chérisson pour Lacan. Et ce qui lui a permis d'y échapper, et donc de ne pas être un pur lacanien, tient au fait d'avoir un point d'extériorité pour le lire. Il faut, nous dit-il, un point d'extériorité à un élève pour pouvoir se situer de manière libre par rapport à un maître. Sinon, c'est une sorte de recouvrement mimétique. Nous en avons quelques exemples dans le champ des analystes lacaniens. Jean Alouche a décrit le modèle d'un savoir hérisson comme quelque chose qui se transmet de manière hérissée, ce qui a déjà été le cas pour Lacan par rapport à Freud. Il avait son point d'extériorité pour se situer et c'était son RSI. Mais Jean observe que Lacan n'était pas un élève zélé vis-à-vis de Freud. Dans ses derniers séminaires, il ne manque pas de se mettre en boule et de le piquer. Je cite, un bourgeois bourré de préjugés, Freud qui n'avait que peu d'idées de ce qu'était l'inconscient, un personnage qui n'avait rien de transcendant, qui était un petit médecin, qui faisait ce qu'il pouvait pour ce qu'il appelle guérir ce qui ne va pas loin. Voilà, donc fin de citation, c'est les gens qui y retrouvent ces moments. Tout piquant qu'il est vis-à-vis de Freud, cela ne l'empêche pas de se dire freudien, Lacan, même après ses paroles. Le mot d'esprit, la parole qui s'adresse à la troisième personne, sont évoqués comme recours à un lui qui fait barrage au surmoi des lacaniens. Ce point tiers d'extériorité, qui s'exerce par la liberté de ne pas reproduire de manière surmoïque le savoir du maître, est salutaire. Jean Alouche a su l'exercer et le nommer. Bien sûr, on va chercher où se situe ce point d'extériorité pour lui. Il le mentionne. C'est dans Lettre pour lettre, dans ce qu'il soutient avec sa translittération. Dans L'amour Lacan, il écrit qu'aimer, c'est laisser l'autre être seul. Ce que j'entends aussi comme une forme d'accès et de tact par rapport à la liberté de l'autre. Au-delà de cet exemple, cette liberté de penser, il l'exerçait malgré tout, toujours. Et on espère y arriver. En tout cas, il en inspire le souhait. Et avant de terminer, je souhaite rappeler qu'il a pensé la cure comme une érotique à deux et non comme une direction où il s'agit de rectitude. Il avait horreur de ce mot de rectitude. Je peux en parler. Dans un de ses derniers textes, il s'est penché sur la question du neutre, ce qu'il nomme la vitalité du neutre, rejoignant Barthes dans son abord de cette notion. Sont mis en avant deux traits issus du cours sur le neutre, mais qui constituent des points de clinique. Il s'agit de la délicatesse et du kairos. Pour moi, ce sont deux traits qui ouvrent des modalités tout à fait particulières de travail avec le transfert. Déjà, on peut dire que le tact est indispensable avec le hérisson, sous peine de s'y piquer. Bon, à la fin de ce texte, Jean Allouche écrit « Fragile, l'interprétation est aussi délicate. » Et il ajoute « Il n'y a de vitalité qu'à la condition de ne pas vouloir à tout prix en être le maître. » Voilà, il nous manque beaucoup, mais son œuvre est parmi nous. Bon, je vous remercie.
Dans les premières lignes du livre de Duras à Ernesto, donc ce livre qui est paru en 1971 et qui était un livre pour enfants, on peut lire. Ernesto va à l'école pour la première fois, il revient, il va tout droit trouver sa maman et lui déclare « Je ne retournerai plus à l'école ». La maman s'arrête d'éplucher une pomme de terre, elle le regarde. « Pourquoi ?» demande-t-elle. « Parce que, » dit Ernesto, « à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. »« En voilà une autre !» dit la mère en reprenant sa pomme de terre. Alors, voilà une phrase qui interloque, que l'on a besoin de relire, de faire résonner, et qu'aucun sens ne vient refermer d'emblée. Ne va-t-on pas précisément à l'école pour apprendre ce qu'on ne sait pas ? L'instituteur que j'ai été il y a 30 ans se questionne alors. Ai-je donc à ce point intégré que les enfants ne savent rien et qu'il s'agit d'inculquer à ces êtres vierges de tout des connaissances dont ils sont dépourvus et qui seraient bonnes pour eux ? Dans la pluie d'été, donc paru en 90, hein, 19 ans après, et qui prolonge Ernesto, l'instituteur déplacé en vient, en effet, à aller rejoindre Ernesto au fond du jardin pour se laisser enseigner par son élève. Alors, de ma place d'analyste et de celle de père aussi, la lecture de ce livre et la rencontre avec Allouche m'ont radicalement déplacé, et ce n'est pas peu dire. Ma rencontre avec Jean Allouche a commencé il y a une dizaine d'années, d'abord par des lectures, et il se trouve que tout ce que j'avançais et semblait découvrir m'amenait immanquablement à tomber sur un texte d'Allouche, lumineux et référencé. C'était même un peu agaçant, d'autant plus que cela m'entraînait toujours encore plus loin. Ces lectures, rencontrant ce que je travaillais, me rendaient plus libre de m'affranchir des carcans des institutions, mais aussi des codes, voire des règlements de la vie ordinaire. Ces lectures des textes d'Allouche avaient des conséquences dans ma vie de tous les jours. Donc faites gaffe, parce que ça peut prêter à conséquence de lire du Jean Allouche, et ce qui se présente parfois comme des exercices spirituels. Une certaine liberté de ton en indisposait en tout cas plus d'un autour de moi. J'ai ainsi été convoqué à des entretiens préalables en vue de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. J'en arrivais à excéder certains collègues au sein de mon association de psychanalyse, à commettre des excès de vitesse en remontant la rue Saint-Jacques à moto au point de manquer de me faire suspendre mon permis de conduire, avant d'y réussir finalement un peu plus tard. Excitation, volonté de vivre à 200 à l'heure, au risque de frôler la mort, m'ont amené à téléphoner un jour à Jean Allouche et à aller le rencontrer 3 fois par semaine pendant près de 2 ans. Je n'étais pas sans savoir que sa fille était morte dans un accident de moto. J'y suis allé pas pour une cure, j'avais terminé la mienne, ni pour un contrôle, ce n'était pas la question, mais pour lui parler de ces vérités indomptables que Lacan avait nommées en passant le 9 avril 1974, et qu'Alouche avait su reprendre comme un moment de passage crucial, car il ouvrait à une autre analytique. Alouche faisait silence et écoutait avec ses yeux grands ouverts. Un « ouais » d'invitation à dire, avec parfois des phrases catégoriques, bousculantes, et d'autres qui invitaient à s'aventurer, à s'autoriser à franchir un bord. Il disait aussi comment il était intéressé ou surpris, donnait parfois franchement son assentiment. Et puis après l'avoir rencontré, j'ai poursuivi mon chemin sans lui, il y a environ 3 ans. « Allez », m'a-t-il dit à ma dernière visite, à son consultoire, comme il aime dire, même si je trouve ce terme un peu trop précieux. Éprouver un manque à être et réaliser en acte la liberté immense que cela offre paradoxalement. Cela se manifestait dans les cures et avec mes collègues. Il y a quelques semaines, j'ai d'ailleurs quitté l'association de psychanalyse dont j'étais membre depuis près de 25 ans. Cela est arrivé moins de 6 mois après la mort d'Alouche et ce n'est sans doute pas un hasard. Le point de non-retour a été mon refus de toute compromission avec un dispositif de passe où le fait que se produisait et se transmettait dans des cartels de passe de l'inattendu était inentendable pour certains et pour l'institution. La passe est un analyseur de l'association ou de l'école de psychanalyse. Elle met en évidence la résistance de l'association à la psychanalyse elle-même. Alors, il faut savoir quitter une association sclérosée et sclérosante, surtout, quand le discours du maître n'en autorise plus d'autres, quand le formatage de la pensée impose ce qu'il faut dire ou penser, quand il faut être d'accord avec la doxa sous peine de se voir affublé des noms d'oiseaux. Alors, il s'agit de reprendre sa liberté dans la hâte. Étrange état que celui-ci, cet état qui en rappelle d'autres, ma fin de cure, celle de certains analysants, une séparation amoureuse, un désêtre et une destitution subjective. Alors, plus de hérissons, ni de porc-épic à côtoyer. Jean Alouche use en effet de la fable, ou plutôt de l'apologue de l'élève hérisson, que Lacan formule dans la troisième en novembre 1974. Un apologue permet de faire exister un être abstrait ou une notion en les figurant. C'est une fiction, à mon avis, au sens de Kant, par exemple, un procédé qui consiste à supposer un fait ou une situation différente de la réalité pour en déduire des conséquences. Nicolas Dissèze nous en a lumineusement parlé en présentant son livre la semaine dernière dans l'association encore. En tout cas, je suis content de cette invitation à venir parler d'Alouche et de ce qu'il transmet. J'ai en effet participé à un cartel avec des membres de l'ELP où nous avons relu ce qu'Alouche écrivait alors et les effets que cela produisait sur chacun de nous. Il était prévu que nous fassions un passage au public de ce travail en novembre dernier, en sa présence. Et puis, Alouche est mort en septembre. Bon, alors, tant pis pour lui, et que cela ne nous empêche pas de dire ce qu'il a pu transmettre, n'est-ce pas ? Alouche a repéré et épinglé certaines avancées que Lacan avait formulées, parfois une seule fois. Il s'appuie sur Lacan, je dirais comme Lacan s'était appuyé sur Freud, c'est ce qu'il montre dans le livre. Le critiquant à l'occasion, quand il se met en boule, donc pas faire référence à ce que Simone vient de lire, ou en lui faisant dire, donc à Freud, mais pour Alouche, c'est ce qu'il fait dire aussi à Lacan, en lui faisant dire ce qu'il n'a jamais explicitement dit. C'est ce que fait Alouche avec Lacan. Il regrette que Lacan n'ait pas su s'emparer de la translittération qu'Alouche a menée en 79. Mais cela n'a pas empêché, des années plus tard, Jean Alouche de ramasser, non pas des hérissons, mais quelques perles rares de Lacan pour en faire bien d'autres choses encore. Il distingue en effet deux analytiques du sexe, qui sont une façon d'indiquer la situation de la psychanalyse, non pas en 1956, mais dans les années 2020. Ça me paraît être un tournant absolument fondamental pour la psychanalyse elle-même. Alouche a dit très tôt son aversion pour la traversée du fantasme et cette fétichisation de l'objet A non spécularisable, mais qui occupait une fonction bouchon quant au vide que met en évidence l'analytique du lieu, l'analytique célibataire. Les vérités indomptables, donc, l'autre n'existe pas, il n'y a pas de jouissance de l'autre, du grand autre, il n'y a pas de rapport sexuel, sont situées dans ce vrai trou, qui n'est ni le trou du symbolique, qui est troué, certes, ni l'endroit du nœud beau où est situé l'objet de Tita. C'est l'absence de désir de rapport sexuel qu'il n'y a pas, de toute façon. Cette analytique célibataire ouvre à une liberté du sujet à ne pas désirer la complétude ou la complémentarité comblante, mais à maintenir l'écart le plus grand, celui de la différence absolue, comme définition du désir d'analyste. C'est à suivre la ligne d'air frayée par Lacan qu'il est effroyablement possible d'affirmer cette liberté du sujet qu'Alouche soutenait en toutes circonstances. C'est ce qu'il repérait avec honnêteté. Est-ce que c'était quelqu'un d'honnête? Il citait ce qu'il avait inspiré. Donc, ce qu'il repérait chez d'autres, Foucault, bien sûr, Artaud, Didier Huberman, Duras, Canudo. Dans l'un des 543 bons mots recueillis par Alouche, il en est un qui concerne les élèves hérissons. « Mes élèves, disait Lacan, s'ils savaient où je les mène, ils seraient terrifiés. » Oui, poursuit Alouche, terrifiés. Oui, il s'agit de les conduire, je cite, « là où il n'y a pas de rapport sexuel, et même si cette existence est bien, quand cela fut confirmé, un traumatisme, cette non-existence. » Et Alouche précise que ce qui se rencontre dans une analyse est l'inexistence de l'autre, du grand autre, ce lieu où ne se trouve pas la solution que l'analysant en attend, mais une autre, à première vue déceptive, voire traumatique. Par-delà toute morale, cette analytique célibataire met en évidence le manque d'un désir de rapport sexuel. Alors, je ne sais pas pour vous, mais voilà encore une formulation, hein. Le manque de désir de rapport sexuel, voilà une formulation comme celle d'Ernesto. À l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. Cette formulation, il faut se la répéter, faire résonner en soi. Je me souviens, lors d'une journée de l'ELP, avoir vu la tête de Le Goffet qui écoutait Alouche la dire. Met en évidence le manque d'un désir de rapport sexuel. Sur le moment, Le Goffet semblait ne pas entendre ce qu'elle ouvrait comme perspective époustouflante. Alors, il s'est tourné vers Alouche, ils étaient assis l'un à côté de l'autre, et il dit, mais qu'il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, papa. Et puis son mérite, moi je trouve, à Le Goffet, ça a été de le lui dire. Alouche, c'était filmé en plus, par Zoom, tout le monde entendait, il dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire, papa. Et j'espère pour lui que, bon, c'était il y a quelques années que cela résonne aujourd'hui. En tout cas, ne pas tendre à la complétude du grand autre par les passions de l'être ou de Dieu n'empêche pas les soulèvements, les plaisirs et la volonté, d'ailleurs, plus que le désir. Ce serait une vie sans Dieu, sans au-delà de la mort, une vie analysante qui ne chercherait pas à boucher le vide, mais côtoierait le néant, une vie qui ne serait pas sans plaisir, expérimentation, exercice spirituel, plaisir et soulèvement, donc une vie célibataire. C'est vertigineux Et c'est ce que Lacan appelle la liberté. Le 17 février 1971, Alouche le cite plusieurs fois, cette liberté est précisément identique à cette non-existence du rapport sexuel. Et cela rejoint ce qu'Alouche nomme la proposition du 11 juin 1974. Alors, c'est Lacan, et c'est Alouche qui va chercher cela, qui nomme, c'est la proposition du 11 juin. Juin 74, donc, il s'appuie sur Lacan, mais il en fait quelque chose qui va plus loin encore. Il ne s'agit pas d'aimer sur un registre imaginaire dans une analytique de l'objet, ni de l'amour comme don actif sur un registre symbolique, mais d'aimer son inconscient dans cette analytique célibataire qui n'a rien d'idéal, de louable, ni d'admirable, plutôt même condamnable du point de vue de la morale. C'est pourtant cette liberté qui permet de rencontrer ce que Lacan nomme les vérités indomptables et qui permet des franchissements, des soulèvements, des mouvements qui dépassent la morale et la bien-pensance. C'est cette liberté qui s'éprouve à lire les écrits d'Alouche et dans sa présence pour ceux qui l'ont rencontré.
À Patricia et à Guy de venir à la tribune et on fera le débat à la fin. Voilà, parce que souvent, c'est autour du livre, les sujets.